franceinter.fr.
Il est bientôt 11h05 et justement, on va déguster avec François-Régis Gaudry au programme l'été en pente douce peut-être.
Pas mal. Bonjour Dominique Delaroy. Bonjour. On vous embarque en effet ce matin pour un petit monde, un petit voyage autour du monde du thé. Et on vous dit à tout à l'heure pour une nouvelle page d'actualité à midi.
On va déguster. On va déguster. Avec François-Régis Gaudry.
Today we are going to make a cup of tea.
Chaque thé devient un voyage extraordinaire.
J'étais passé pour prendre un thé, caramel ou vanille.
Découvrez 25 des meilleurs thés du monde.
C'est l'instant thé sur le plateau dont on va déguster avec nos deux invités spécialisés dans le thé. Vous avez vu, elle est quand même pas mal, mon alitération. Bravo. Elvira, vous en pensez quoi?
Dominique, moquez-vous un peu de lui, s'il vous plaît.
Moi, j'ai un plan B, vous avez un plan T peut-être.
François-Xavier Delmas, bonjour.
Bonjour.
Profession chercheur de thé, c'est d'ailleurs le nom de votre blog, www.chercheurdethé.com. Depuis 25 ans, vous passez la moitié de votre temps à parcourir les pays producteurs de thé, à la recherche des meilleures récoltes. Vous avez fondé le Palais d'été en 1986.
Oui.
Et aujourd'hui, ce sont, si j'ai bien compté, 17 boutiques en France.
Il y en a, oui, 17 en France et 29 en tout. On vient d'en ouvrir deux à New York à Noël.
Ah oui, c'est ce qui s'appelle une multinationale du thé alors.
Non, je crois que en 25 ans, c'est pas glorieux. Je pense que l'entreprise, elle se construit lentement, mais sûrement. Le thé, c'est la lenteur. Hein. Il faut prendre son temps et il faut faire des choses solides. Donc voilà. Mais je passe plus de temps. Alors je passe peut-être de temps en temps dans les boutiques, mais je passe davantage de temps dans les montagnes, parce que ma passion, moi, c'est d'aller rencontrer le gars ou la femme, ceux qui ont les pieds dans la terre, dans les théiers et qui font pousser le thé. Eux, ils ont des choses à vous raconter.
C'est ce qu'on va voir avec vous. Impossible, vous imaginez bien, de tout dire sur le thé en une heure. Il faudra au moins 10 émissions de plus. Disons qu'on va tenter, chers auditeurs, de vous fournir quelques repères pour comprendre le thé et apprendre aussi à le déguster. François-Xavier, vous allez d'ailleurs nous dispenser. Vous avez tout le matériel étalé devant vous. Une petite leçon de dégustation.
Voilà, on va goûter ensemble 5 thés différents. Thé vert, thé noir, Népal, Chine, Inde, Japon, Corée.
Car il y a différentes couleurs dans le thé, hein,
bien
c'est
sûr,
ce qu'on va voir.
Bien sûr.
Pour ce Tea Time dominical, également en notre compagnie en ce dimanche matin, nous sommes en direct. Lydia Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur agronome de formation quand même, ça vous donne une petite légitimité. Pardon. Vous travaillez depuis des années dans l'univers du thé, vous êtes un peu sommelière du thé, ça vous va comme définition?
Oui, sommelière, et c'est vrai que mon côté agronome m'invite aussi à aller dans les plantations de thé parce que j'ai besoin d'avoir un rapport avec le producteur. C'est un produit de terroir, comme l'a dit François-Xavier Delmas, et c'est un produit qui est travaillé par l'homme. Et c'est vrai que c'est très important.
Vous êtes consultante, formatrice, et vous avez signé quand même 7 ouvrages sur le thé, dont le dernier, 1001 secrets sur le thé aux éditions Prat, dont on vient d'apprendre qu'il a été récompensé hier soir par une récompense, par le Gourmand Award Édouard Cointreau. Félicitations.
Merci.
Et c'est vrai que c'est un joli bouquin. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Que vaut le thé en sachet qu'on trouve dans les rayons de nos supermarchés? C'est la question qu'on va se poser ensemble.
Oui, on trouve de tout. C'est justement parce que l'offre est grandissante et que le marketing est redoutablement efficace qu'il faut redoubler de vigilance. On trouve de tout dans un sachet de thé.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dominique Hutin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous faites équipe ce matin avec notre invitée Lydia Gauthier.
Hein. Oui, qui va faire ma chronique.
Figurez-vous. Ah, je vais faire ça, vous.
En fait, on va
exploitation d'invité, je vais vous dénoncer.
On va s'organiser une petite bagarre en fait avec Lydia, à grand renfort de thé, de vin et le tout autour d'un plateau de fromage. Voilà. Et comme
par
je
exemple,
suis une gentleman, c'est Lydia qui a eu le choix des armes.
Attendez, du thé avec du fromage.
Exactement.
J'ai
oui.
bien entendu.
C'est ça.
On va voir ça tout à l'heure.
On va déguster.
Nos actus, nos partis pris de la semaine, c'est la tournée des popotes. Dominique, vous nous le confirmez une fois de plus ce matin. Le vin, c'est votre dada.
Oui, c'est mon dada. Bon alors, et justement, à propos de cheval, c'est l'actualité quand même. Là, on a pu s'apercevoir que l'industrie des plats cuisinés n'était peut-être pas très à cheval sur certains principes. Et je pensais, comme d'autres, que la filière chevaline aurait du mal à aller se prendre un gadin. Allez, voilà, avec cette histoire de viande de cheval en lieu et place de la viande de bœuf. Ben, il n'en est rien. Rien du tout, et les bouchers chevalins ont montré qu'ils étaient doués pour le saut d'obstacle, puisque contre tout pronostic, figurez-vous qu'à l'arrivée, ils ont touché le tiercé dans l'ordre, avec, paraît-il, des ventes augmentées de 15%.
Non, alors ça, voilà. Je n'y ai pas cru. Ça veut pas dire mal. Qu'on mange plus de viande de cheval depuis
ce étonnant.
Les scandale. Gens combien se sont de... rappelés que la viande de
une
cheval
augmentation
existait.
De la consommation. Hein.
Voilà. C'est vrai qu'il y a un blocage psychologique, d'une part, et une méconnaissance, d'autre part. Alors du coup, si la viande de cheval revient à la mode, peut-être qu'elle va ringardiser toutes les recettes à base de bœuf. Donc il était urgent de se poser la question de savoir quel vin pour accompagner un steak de cheval.
Il
par
a
exemple.
Osé.
Ben oui, voilà. Alors, pour le cheval, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une viande très tendre.
Vous allez vous faire des amis, Dominique, vous savez ça.
Oui, mais bon, chacun fera comme il l'entend. De toute façon, il n'y a que 700 bouchers chevalins en France.
C'est vrai.
Donc les chances de multiplier une rencontre avec un steak de cheval sont encore infimes.
Les hippophages sont malheureux.
Voilà, exactement. Si vous parvenez à acheter du steak de cheval, donc extrêmement tendre, très très peu grasse, moins grasse qu'un poisson, 2% pour certaines pièces
ah, quand même.
De graisse. Somme toute, très très peu. Et elle présente un goût légèrement sucré. Donc cette viande délicate réclame un vin fin. Et par ailleurs, il faut.
Ou un thé
Oui,
justement. Thé, je n'ai pas essayé.
Ça me brûle de vous demander quel thé accompagne.
On lance des pistes pour nos invités. Thé et viande de cheval.
Moi, non, je suis resté encore classique dans mes intentions. Voilà, donc pour le vin fin, je me suis tourné vers la Loire. Et alors là, j'ai ressuscité un vin qui a bien failli disparaître, comme certaines espèces de chevaux d'ailleurs, qui auraient disparu s'il n'y avait pas d'industrie chevaline de boucherie juste derrière. Ce vin, c'est l'Orléanais. Vous connaissez peut-être.
Mm-hmm.
Simple, c'est à Orléans. En l'occurrence, il s'agit du Clos Saint-Fiacre. J'ai pas fait exprès, je vous promets.
C'est une blague.
Non, non, vraiment, c'est un vin très délicat que j'ai croisé l'autre jour au Salon des Vins de Loire. C'est fin, c'est légèrement poivré, pas de tanin agressif, idéal avec la viande de cheval. Voilà. Donc c'est un vin rouge, Orléans, 2012, donc il est tout jeune. Et l'autre avantage de la viande de cheval, disent les professionnels, il faudrait vérifier, c'est qu'en général, par rapport au bœuf, ça présente 6 à 7 euros de moins au kilo. Et 7 euros, encore un hasard, c'est exactement le prix de ma bouteille de ce matin.
Parfait.
Voilà,
et
ben la vie est belle.
Très bien, merci Dominique. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour.
En parlant de viande équine, justement, nouveau rebondissement dans ce scandale.
Ah ben, je poursuis dans votre steeplechase, Dominique. L'Italie est aussi touchée par le scandale de la viande de cheval dans ses lasagnes. On l'a appris hier, en effet. Ce sont 6 tonnes de viande hachée et 2400 confections de lasagnes à la bolognaise qui ont été de l'entreprise Primia à Bologne qui ont été mises sous séquestre. Donc voilà, la terre-mère est également touchée par le scandale de la viande de cheval. Alors je vous propose pour vous en sortir, parce que visiblement on ne sait pas quel sens se vouer, de vous lancer tout simplement dans la réalisation de lasagnes à la maison, ce qui ne me paraît pas très compliqué.
Très bonne idée.
Ouais, bonne idée, toute simple. J'ai demandé à notre grande amie qui est déjà venue dans l'émission, Laura Zavan.
Laura Zavan, cuisinière italienne devant l'éternel.
Auteur de livres de recettes, de nous livrer sa recette, la plus caisse. Classique de lasagne. Alors première chose à savoir, les feuilles de lasagne sèches, parce que je ne me suis pas lancée non plus dans la pâte fraîche.
Hein. Mais comment donc ?
Mais il me faudrait une émission entière.
Hein ? Ah oui, mais vous ne les avez même pas faites à la maison, chez vous ?
Mon four était en panne.
D'accord,
ça vous va ? Donc des feuilles de lasagne sèches que vous allez acheter en grande surface, il faut absolument les pré-cuire. Même s'il est indiqué sur le paquet que ce n'est pas utile, il faut absolument le faire d'après Laura. Il faut les pré-cuire à l'eau bouillante, donc jusqu'à ce qu'elles soient al dente. On les retire à l'écumoire et on les met à sécher sur du papier sulfurisé ou sur un torchon propre, de préférence le torchon. Ensuite, on prépare une béchamel, car oui, étonnamment...
Non, mais attendez, une béchamel dans des lasagnes italiennes.
Eh oui, à Bologne et dans tout le nord de l'Italie, la recette traditionnelle de lasagne à la bolognaise, mais qu'on appelle en Italie lasagne au ragoût, c'est le nom de la sauce bolognaise, contient de la béchamel, mais en toute petite quantité. Hein, pas la béchamel à la française, on met 8 louches. Là, chaque feuille, chaque couche de lasagne sera nappée d'une mince, mince pellicule de béchamel.
Vous nous rappelez ce qu'est une béchamel, Elvira ?
Farine, lait, beurre.
Très bien. C'est tout, non ? En même temps, elle a fait la recette.
Et noix muscade. Beaucoup de muscade, oui. On prépare la béchamel. Ensuite, on prépare donc cette sauce bolognaise qu'on peut tout à fait préparer à l'avance. Donc là, le secret, c'est d'étailler en petits morceaux du céleri branche, de l'oignon, de la carotte, qu'on fait revenir dans un peu d'huile d'olive. Puis on ajoute la viande. Alors là, la viande, à l'origine à Bologne.
Alors la question de la viande.
Alors justement, vous disiez, Dominique, que la viande de cheval est très maigre. C'est absurde, parce que dans la sauce bolognaise, la sauce ragoût, il faut une viande un peu grasse. Mmh. À l'origine à Bologne, c'était un tiers de viande de porc, un tiers de viande de bœuf et un tiers de charcuterie, de pancetta, de chair à saucisse. Laura, elle, fait parfois moitié veau, moitié bœuf, parfois uniquement bœuf. Très important, demandez à votre boucher donc de la viande assez grasse de bœuf qu'il faut faire hacher gros. L'idéal serait même de la hacher.
Soi-même ?
Au couteau.
À la maison ?
soi-même, mais c'est compliqué. Voilà, très important, on fait cuire la viande jusqu'à ce qu'elle ait rendu toute son eau. Il faut compter au moins 20 minutes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide.
Il faut que la sauce soit assez sèche.
Absolument, il faut que la viande accroche le fond de la casserole. Après, on met un verre de vin rouge, on fait évaporer et on couvre de bouillon de légumes. On cuit encore 30 minutes à couvert. On ajoute un bouquet garni, deux clous de girofle, la Laura Zavanstotch, le petit secret, une boîte de tomates pelées sans leur jus a priori, sauf si la sauce vous paraît vraiment un peu trop sèche, auquel cas vous ajoutez un petit peu de l'eau de tomate de la boîte de tomates pelées. Et là, on continue à cuire, encore 30 minutes, et ensuite on procédera au montage. Et là, je vous renvoie peut-être vers la fin de la recette sur France Inter, à la rubrique qu'on va déguster. Montage très simple, impératif de terminer avec une couche de sauce ragoût, sauce bolognaise, avec un tout petit peu de béchamel, beaucoup de parmesan et quelques noisettes de beurre.
Donc le choix du fromage, parmesan, pas question
pas
de mettre
d'emmental,
de
pas de mozzarella.
Ça c'est la recette selon Laura Zavan, je vous confirme, je l'ai goûté plusieurs fois cette recette, je la fais même à la maison, la recette de lasagne à la viande de bœuf de Laura Zavan, notre amie.
Et également
qui est venue...
laurazavan.com qui sort un nouveau livre au mois d'avril, My Little Italy.
Et elle nous offre sa recette de lasagne maison à consulter sur le site de l'émission. De vraies lasagnes maison pour éviter donc les mauvaises surprises des plats cuisinés. Mais d'ailleurs, la vraie question qu'il faudrait se poser dans cette affaire, c'est que sont devenues toutes ces lasagnes, ces moussaka, ces spaghettis bolognaises et ces stocks de cheval frauduleux. Oui, c'est vrai, après tout, ces denrées contreviennent à la réglementation, mais elles n'étaient pas nocives pour la santé. Et c'est là où on se rend compte que notre Europe ne tourne pas très rond, parce que c'est vrai, on a appris cette semaine que la Commission européenne autorisait, à partir du 1er juin, le retour des farines animales pour nourrir nos poissons d'élevage. C'est ballot, à 4 mois près, on aurait pu nourrir nos saumons et nos dorades à la viande de cheval. Bon, certes, il y aurait quand même peut-être le risque de les transformer en hippocampes. Heureusement, il y a notre président de la République qui, arpentant, hier samedi, dépotrombinait les allées du salon de l'agriculture, s'est braqué contre les farines animales, effet bœuf, porte de Versailles.
Et la France s'y oppose aux protéines animales. La France a voté contre et la France n'introduira pas ces protéines animales pour ce qui la concerne. Et donc, nous pourrons continuer à nourrir les poissons de manière traditionnelle. Même si je dois quand même considérer, n'étant pas un spécialiste, mais qu'il y a des poissons qui sont carnivores.
Promis, c'est François qui le dit, nos poissons tricolores ne mangeront pas de pâtes. Et là, je ne parle plus des lasagnes d'Elvira, mais des pâtes, vous savez, les protéines animales transformées. Même si François Hollande, vous avez remarqué, introduit quand même une petite nuance à la fin de son intervention qui pourrait être une dangereuse porte ouverte justement à ces protéines animales transformées. Il nous dit, certains poissons sont carnivores, comme pour légitimer la possibilité de ce nouveau menu carné. Heureusement qu'il signale qu'il n'est pas un spécialiste. Si certains poissons sont des prédateurs, monsieur le président, s'ils mangent effectivement d'autres espèces de poissons, on n'a encore jamais vu des bancs de saumon s'attaquer à un troupeau de porcs ou faire une descente dans un poulailler. Au moment où on prend les consommateurs pour des bœufs et la viande équine pour de la viande bovine, est-ce vraiment le bon moment de prendre les poissons pour des mangeurs de porcs et de poulets au mépris de toute chaîne alimentaire? Je vous laisse méditer sur cette question.
Training orders. You see, I just can't lie. I'm a prison for your big brown eyes. Don't fear, I've only love for you. All I wanna say to you is, my name. Don't you wanna know my name? My name. What's my name? Unsuspected, I'm at your home. Tray. Describe the joy that we can share. Around my fingers, cross your skin and hair. And double check the tightness of the road. Ooh, this is not a joke.
wanna say to you is, my name is, my name is, my name is, don't you wanna know my name? My name is, my name is, my name is, boy, don't you wanna know my name? My name is, my name is, my name is, don't you wanna know my name? My name is, my name is, don't you wanna know my name? Oh, what's my name? Step behind bars, you see, separated from my destiny. Don't fear, I'm scared at this game, 'cause now I know you know my name.
Aussi tonique qu'un thé vert, c'était une jolie chanson qui nous a bien réveillés. My name is Kelly Lee Evans.
Le thé, oh, ça c'est quelque chose de très anglais. Moi, je suppose que je prends au moins 12 tasses de thé par jour.
Today we are going to make a cup of tea. But we must let it wait for 3 minutes now before we serve it.
Un reportage signé Michel Toulouse dans les années 60, c'était un document INA. En consultant les derniers chiffres disponibles, on s'aperçoit que la consommation quotidienne de thé dans les îles britanniques est, attention c'est effrayant, 4 à 7 tasses de thé par jour et par personne, soit plus de 2,5 kg de feuilles de thé par an, contre en France une petite tasse de thé avalée tous les 3 jours et 250 grammes de thé par personne et par an, c'est-à-dire 10 fois moins. Outre-Manche, on est un peu des petits joueurs par rapport aux Anglais, hein, François-Xavier Delmas.
Les Français consomment très peu de thé, mais voilà, les Britanniques en consomment énormément. Ils n'ont pas le record. Hein. Les Qataris sont à 5 kilos par an, par habitant. Voilà, donc nous, on est très en arrière. Après, il faut se demander pourquoi, mais c'est en train de changer beaucoup. Après, moi, je pense que la raison, c'est parce que pendant des années, des dizaines d'années, on nous a servi du thé mauvais, en sachet bas de gamme, pas bon, et qu'en France, on a quand même un bon sens de la gastronomie, et que si on nous sert quelque chose qui ne nous plaît pas, eh ben, on ne le consomme pas.
Vous êtes en train de nous dire que si nos chers amis anglais boivent beaucoup de thé, c'est parce qu'outre-Manche, le thé est bon, contrairement à la France ?
Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas forcément qu'ils ont une habitude de consommer. D'abord, ils ont pas notre rapport à la gastronomie. Voilà, peut-être que je vais me faire des ennemis. Mais
c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà.
Quoi que ça prenne.
Tout de suite, qu'ils n'ont pas de goût. Hein.
Non, je pense que chez eux, c'est une boisson qui est populaire depuis très longtemps. C'est un rituel social. Même dans les usines, au début du XXe siècle, il y a une pause pour boire du thé dans des mugs. C'est quelque chose, c'est une coutume. Et ils en boivent des quantités. Ils sont, c'est vrai, pas très regardants sur la qualité, dans la mesure où, de toute façon, ils ont pris l'habitude de mettre du lait, que le lait enlève l'amertume, que du coup, il vous faut des thés hyper corsés qui développent dans la tasse énormément d'astringence. Et c'était là, si vous ne rajoutez pas de lait, et ben, ils sont moins bons. Voilà.
Ça vous choque, Lydia Gauthier, justement, cette habitude anglaise qui consiste à verser du lait dans son thé ?
Alors, les Anglais ont produit du thé principalement pour pouvoir verser du lait dans leur thé, puisqu'il faut savoir qu'ils sont quand même à l'origine de grandes productions dans le monde. C'est les Anglais qui ont introduit la théiculture à partir des années 1850 en Inde du Nord.
Donc, ils ont joué quand même un rôle historique important.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'était pendant longtemps, pendant plus de 3 siècles, ils ont détenu le monopole du négoce du thé pour l'Europe et les États d'Amérique. Donc ils ont quand même joué un rôle historique et un rôle économique important dans le commerce du thé et dans la production du thé.
Lydia Gauthier, vous considérez que la France fait quand même des progrès en termes de dégustation de thé depuis plusieurs années ou pas ?
Alors, je vais suivre François-Xavier Delmas. Je pense qu'effectivement, on a un palais qui est déjà éduqué au vin.
Oui.
Ce sont des produits qui sont très proches, le thé et le vin.
Donc ça veut dire que notre notion de terroir nous prédispose à apprécier la diversité du thé.
Et à consommer du bon thé. Donc je pense que c'est 250 grammes par habitant et par an. Finalement, si on allait dans le détail, ce sont sans doute des thés beaucoup plus qualitatifs.
Oui.
Et peut-être plus chers aussi que les plus de 2 kilos par habitant et par an en Angleterre.
Vous parlez là aussi du rapport de la société française à son vin. On boit moins, on boit mieux. C'est exactement la même courbe.
Sauf qu'on boit un peu plus de thé qu'avant, même si on en boit effectivement beaucoup moins que nos voisins.
Alors je pense qu'on ne boit pas forcément moins, on boit plus de thé qu'avant en France, mais on a toujours bu mieux.
Et quand même, ce qui est intéressant,
François-Xavier
c'est que
Delmas.
Notre méconnaissance du thé à ce jour en France est une chance énorme. Parce que comme les Français ne connaissent rien au thé, je schématise, mais c'est volontaire.
Vous parlez toujours au présent. Hein.
Oui, comme aujourd'hui, ils ne connaissent pas grand-chose, que tout d'un coup, le thé commence à les intéresser. Et comme on n'a aucune habitude liée au thé, et ben c'est passionnant.
Parce que justement,
ils sont prêts, ils n'ont aucun a priori, ils n'ont aucune habitude de consommation. Et ils sont prêts à découvrir des thés que d'autres pays consommateurs ne savent pas découvrir parce que c'est contraire à leur mode de préparation. Et des Français, ils ont envie de découvrir le thé comme on découvre le vin, d'essayer toutes les sortes, les blancs, les thés blancs, les thés noirs, les thés semi-fermentés. Ils n'ont pas une manière de préparer qui nuit à ça. Les Anglais, c'est difficile de leur faire découvrir du thé vert parce que s'ils continuent à mettre du lait dans leur thé vert, c'est juste impossible et ça n'a pas de goût. Donc en fait, c'est une opportunité. Notre méconnaissance aujourd'hui en France du thé, moi j'estime que c'est une chance. Et je pense qu'il y a un engouement actuel et une curiosité par rapport au thé, mais incroyable. Et les gens, ils ont envie de découvrir et ils ont envie de les découvrir purs et sans rajouter des tas de choses à l'intérieur. Je sens vous voulez dire quelque
chose. Si les Français se mettent au thé, vous pensez qu'on arrivera à les battre au rugby un jour?
La méconnaissance des Français à l'égard du thé. Mais alors, François-Xavier Delmas, vous qui, depuis 25 ans, parcourez le monde entier à la recherche des meilleures récoltes de thé, à quoi sert donc vos 17 boutiques en France, si ce n'est à éduquer les buveurs de thé français?
Et ben à s'y mettre au fur et à mesure. On ne s'y met pas du jour au lendemain. Et je pense que c'est un mouvement, c'est peut-être un mouvement lent, ça s'étale peut-être sur plusieurs dizaines d'années, mais c'est un mouvement qui est entamé depuis 10, 20 ans, où on voit bien qu'il y a une curiosité par rapport à ça. Et je pense que des gens, ils voient une boutique de thé, ils passent devant, ils disent « Ah bah tiens, le thé, c'est marrant. » Et voilà, et ça crée une opportunité. Tout d'un coup, ils découvrent. Mais plein de personnes sont très étonnées que le thé les intéresse. Combien de fois on a des clients qui viennent dans une boutique dans un palais d'été ou autre et qui disent mon médecin me demande d'arrêter le café, alors je viens chez vous. Alors ils arrivent avec une mine déconfite parce que franchement le thé ça les intéressait pas. Et ce qui est génial, c'est quand ils reviennent une deuxième fois et que les mêmes clients vous disent mais vraiment merci pour ce que vous m'avez fait découvrir la dernière fois, j'ai jamais imaginé que le thé ça m'intéressait.
Parce que voilà. Le thé c'est
souvent... Ça c'est un comportement hyper fréquent et il y a plein de personnes qui sont mis dans la tête que le thé c'était de l'eau chaude et que c'était quelque chose qui était fade ou une boisson pour mamie, mémé comme vous voulez, ou de trucs un peu snob, cliché et voilà qui sont passés à côté. Et aujourd'hui voilà, on se rend compte que c'est un produit gastronomique. Et voilà.
C'est ça, et visiblement, le thé n'est plus seulement la boisson de substitution du café. D'ailleurs, le thé est aussi une boisson excitante comme le café. Hein.
Oui, mais...
Quand un médecin demande à ce qu'on arrête le café, remplacer le café par le thé...
Le thé est rangé dans les stimulants, alors que le café est rangé dans les excitants.
Ah.
Le thé vous stimule, et c'est le thé, c'est le fait que le thé stimule votre esprit qui a fait connaître le thé de monastère en monastère, en Chine. Et voilà comment le thé s'est répandu. C'est parce que les moines en Chine se sont rendus compte que ça aidait à l'apprentissage et que ça maintenait votre esprit en éveil.
C'est ça. On découvre donc que le thé n'est plus seulement une boisson générique, mais qu'il y a à l'intérieur de cette grande famille, effectivement, des terroirs différents, des méthodes de préparation différentes. Et même Lydia Gauthier, j'étais même moi assez étonné de l'apprendre, 6 couleurs de thé différentes. Moi, j'en étais resté au thé noir ou au thé vert.
Et au thé vert,
éventuellement,
oui, ce
peut-être
sont
le thé blanc.
Les deux les plus connus.
Alors, racontez-nous ces catégories.
Alors, c'est une histoire d'oxydation de la feuille de thé. Donc, sans rentrer dans les détails chimiques, la feuille va changer de couleur et changer de goût aussi en s'oxydant. Elle se teinte de brun.
Et quand vous parlez de l'oxydation, c'est le contact pour le coup de la feuille de thé à l'air.
À l'air, une fois qu'elle a été récoltée.
D'accord.
Peut-être juste rappeler que le thé est issu d'une seule et même plante.
Oui.
Il n'y a pas plusieurs
plantes.
Alors effectivement,
c'est
un seul arbre.
C'est du camélia. Vous buvez du camélia quand vous buvez
si
du thé.
C'est
de
la famille
du
camélia. On ne parle que du camélia sinensis, qui a plein de cépages différents comme le vin.
C'est-à-dire
hein,
de variétés.
Plein de cultivars différents.
D'accord.
Voilà. Donc avec le même théier, par contre, on peut obtenir ces 6 couleurs de thé. Donc le thé vert, c'est un thé qui n'est pas du tout oxydé, donc on va faire en sorte de garder la couleur initiale verte et puis un goût aussi particulier, hein, on est sur des notes un peu végétales en général. Ensuite, le thé noir, qui est un peu son opposé, va être totalement oxydé, qui est appelé thé rouge en Chine. Il y a une classification un peu différente décalée en Chine, qui est le berceau du thé, rappelons-le quand même, c'est important.
Ah, oui. 3000 ans d'histoire de thé.
Oui. On a le thé blanc qui est naturellement oxydé, donc on va laisser les feuilles se flétrir pendant plusieurs jours et donc la feuille de thé va prendre une teinte un peu vert-gris, un peu comme quand on fait sécher de la verveine ou de la menthe chez soi, c'est le même principe, hein, on ne travaille pas la feuille. Alors que pour le thé vert et le thé noir, il y a vraiment l'homme qui va agir, le planteur qui agit sur la feuille, qui va faire évoluer le goût de la feuille et sa couleur. On a le thé jaune qui est un cousin germain du thé vert chinois. Puisqu'on va empêcher une oxydation, mais on va le laisser reposer sous couvert de paille et donc il va prendre une teinte un peu jaune et un goût différent aussi. Mm-hmm. On a le thé bleu-vert qui est appelé aussi thé oolong en Chine.
Le thé oolong, absolument.
Voilà, qui est à mi-chemin entre un thé vert et un thé noir. Donc d'accord. On initie une oxydation, mais on ne la pousse pas jusqu'au bout. Et puis donc la sixième couleur,
le thé blanc, le thé blanc.
La sixième, le thé blanc, j'en ai parlé.
Ah, oui,
thé jaune, thé vert, thé bleu vert, thé noir dit rouge en Chine et thé sombre dit noir en Chine, qui est un monde en soi, le pu'er. Qui est principalement produit dans la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine et qui là est un thé qui est fermenté. C'est la seule couleur de thé qui n'est pas oxydée mais qui va subir une fermentation microbienne, une évolution et qui pour le coup est très proche du vin parce qu'on peut compresser ce thé en galette et le faire vieillir en cave pendant plusieurs années.
Absolument.
Et donc on a la notion de millésime comme pour le vin.
Avec un thé qui vieillit. Et alors, ce qui est quand même intéressant avec toutes ces couleurs-là, c'est qu'en termes d'arôme, de profil aromatique, vous avez des résultats, mais complètement différents les uns des autres. Donc, c'est ça qui est une richesse incroyable.
On veut une démonstration.
Oui, oui.
François-Xavier Delmas. Alors, il faut quand même expliquer pour nos auditeurs qui, par définition, n'ont pas l'image, que François-Xavier Delmas a juste à côté de lui une bouilloire assez particulière, puisqu'elle a le mérite de vous donner la température de l'eau, c'est ça ?
C'est la base des bouilloires. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'en a pas une comme ça. Pour moi, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas faire du thé correctement.
Ah, voilà, c'est en train de sonner. D'ailleurs.
Vous ne pouvez pas faire du thé correctement si vous ne faites pas attention à l'eau que vous utilisez. Alors, si vous utilisez de l'eau, il faut déjà connaître sa température.
D'abord, quelle eau ?
Oui, bonne question.
Une eau neutre en termes d'acidité. Donc, un pH 7, c'est parfait. Une eau pas trop minérale.
Parlez-nous normalement, François-Xavier. pH 7, on choisit quelle eau ? Est-ce que l'eau du robinet, on exclut, hein, c'est ça ?
On exclut l'eau du robinet.
Surtout quand on est en ville parce que c'est calcaire ?
Oui, parce qu'elle va En fait, si vous voulez, ça dépend un peu de ce que vous achetez comme thé. L'idée générale, c'est qu'il ne faut pas non plus trop compliquer et dire aux gens, voilà, le thé, c'est hyper complexe parce que ça ne va pas leur donner envie. Mais si jamais vous achetez un très beau thé, ça serait vraiment dommage de ne pas bien le préparer. Mais là encore, c'est exactement comme le vin. Il y a plein de parallèles entre le thé et le vin. Si vous achetez un très beau vin, vous allez le carafer. Exactement la même chose.
Si on veut s'initier, François-Xavier Delmas, au thé,
oui,
on va par exemple chez vous, mais on peut éventuellement aller ailleurs. Il existe d'autres enseignes qui font de bons thés. Un premier thé qui permettrait d'être une porte d'entrée en fait dans ce domaine, c'est-à-dire à la fois gastronomique mais pas trop pointu et pas trop cher non plus. On pourrait se tourner vers
le premier qui me sort comme ça, qui me vient à l'idée, c'est Grand Yunnan Impérial.
Le
Grand Yunnan Impérial.
Donc
un thé de Chine,
chinois.
Non fumé,
d'accord.
Très rond, très aromatique, pas trop astringent, très complet. Quelqu'un qui a envie de quelque chose d'assez corsé pour le matin, il trouvera son compte. Et si vous laissez infuser un tout petit peu moins, un Grand Yunnan Impérial, ça c'est très beau. Juste pour en revenir sur l'eau,
alors,
ce qui est majeur, c'est la température de l'eau. De l'eau qui a bouilli n'est plus intéressante, au bouillu, au foutu. Et c'est exactement,
c'est vrai.
Bien sûr, l'eau, il y a de l'oxygène dedans. Si vous la laissez bouillir, l'oxygène s'en va. Et les feuilles de thé, elles ont besoin de parler avec
l'oxygène. Alors comment on fait à la maison lorsqu'on n'a pas de thermomètre et qu'on fait bouillir de l'eau et
qu'il
ne faut pas
qu'elle repose jusqu'à la bonne température, on la jette et on fait cuire ses pommes de terre dedans, mais on l'utilise pas pour le thé.
D'accord.
Pour le thé, on attend que l'eau atteigne une certaine température. Alors selon l'été, on est entre 60. Là, devant moi, j'ai un Tawara Minashincha. Là, c'est une eau à 70 degrés. Pour des thés noirs, on est plutôt sur 80-85 degrés.
Vous faites un thermomètre, François, je ne voulais pas y couper.
Oui, mais avec tout ça, ça vous paraît peut-être compliqué comme ça, mais en fait, tout ça, c'est très simple. Et le matin, franchement, c'est pas plus de gestes que d'aller utiliser un machin industriel. C'est vraiment, quand vous êtes habitué, c'est quelque chose d'extrêmement simple.
Donc, on a de l'eau, on part du principe qu'on a une bonne eau de source. Quelle marque, allez ?
Non, vous pouvez aussi avoir un filtre à eau.
D'accord, ou de l'eau filtrée à la maison.
De l'eau filtrée, c'est très bien. Le calcaire, en fait, ça va précipiter les différents composants du thé et ça vous fait la pellicule à la surface et c'est très vilain.
Là, on parle de thé en vrac et en l'occurrence, il y a aussi une question de dosage pour le coup.
Oui, le dosage, bon, ça, c'est pas le plus difficile. C'est une pincée à trois doigts pour par tasse.
Une pincée à trois doigts. On prend les trois doigts.
Voilà,
le pouce, l'index.
Voilà, le pouce. Bah oui, plutôt ces trois-là en général que les trois. Essayez toujours avec les trois autres, mais je pense que c'est plus dur. Et voilà, le pouce, l'index et le majeur. Et en gros, ça vous fait une pincée et vous faites ça par tasse. La quantité, bon, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est très important, c'est d'arrêter l'infusion.
D'accord.
Pourquoi est-ce que parfois vous vous dites « Oh, bah tiens, j'aimerais bien avoir un peu de sucre, un peu de lait ». C'est parce que vous avez dépassé le temps d'infusion, que du coup, vous avez une amertume qui s'est développée, une astringence excessive. Le thé, c'est une histoire d'harmonie. Donc, c'est une harmonie entre une texture en bouche, entre des parfums, entre une saveur. Et tout ça, ça doit être équilibré.
Et le temps d'infusion, en l'occurrence, c'est souvent indiqué sur le paquet ?
Bah, oui, normalement, ça doit être tiré sur le paquet. Mais ça peut être très différent d'un thé à l'autre. Vous avez des temps d'infusion pour des thés rares japonais qui sont de l'ordre de 30 secondes ou inférieurs à la minute.
Oui.
Et d'autres thés qui peuvent infuser, comme les thés blancs dont parlait Lydia, une dizaine de minutes. Et les thés ne sont pas égaux sur la durée d'infusion. Vous avez certains, si vous les laissez dépasser une ou deux minutes, c'est pas bien grave parce qu'ils ont moins de tanin. Un Darjeeling de printemps qui doit infuser à 3 minutes 30, 3 minutes,
3 minutes
30, 4 minutes,
oui.
Vous le laissez dépasser une minute, vous le flinguez.
C'est-à-dire qu'il devient astringent, âpre,
il a perdu tous ses beaux côtés.
Les thés verts japonais, c'est vrai que des thés verts japonais, des sencha par exemple, lorsque l'on dépasse le temps d'infusion, on se retrouve avec une astringence en bouche qui est assez insupportable. On poursuit et cette petite leçon de dégustation de thé. Faites-nous goûter un thé qu'on va passer autour de la table. Et là, on est...
Alors, on va le goûter, mais on va le sentir. Parce que ce qui est passionnant quand on goûte un thé, c'est de regarder la feuille sèche. Surtout, et je vous l'attends, c'est de sentir dans ce petit pot, de sentir la feuille infusée. Mmh. Et de sentir la feuille infusée. Alors là, avec moi, j'ai le matériel professionnel.
Et le bruit de bouche que vous venez de faire, il est indispensable ?
Ben, c'est comme Dominique Hutin, c'est de la rétro-olfaction.
C'est de la rétro-olfaction. Si vous ne mettez pas d'oxygène quand vous goûtez quelque chose, vous passez juste
à côté. Vous faites ça tous les matins ?
Bien sûr, et je crache. Bon, je ne vais pas le faire chez vous, mais quand on goûte beaucoup de thé, évidemment, on va les cracher aussi parce qu'on ne peut pas tout, goûter.
François-Xavier Delmas, au printemps, au moment de la production, peut tester jusqu'à 200 thés par jour pour faire la sélection des thés qu'il va vendre dans ses boutiques. On se retrouve dans un instant pour prolonger cette petite leçon et on va parler, bien entendu, des thés en sachet. Oula, vous y arrivez presque, Elvira, des thés en sachet en grande surface.
Over and over, comme après un mariage, n'aurais-tu plus le courage qui sauvait de ce naufrage? Quand la dernière chose au monde n'a plus rien de Dieu. Over and over, contredire serait vouloir. L'infini n'est jamais là. Et ton grand Dieu se bêta, perdu en instant mousseux, n'a plus rien de Dieu. Tout ainsi t'a jassé, pour presque rien, nous jette un manteau sur les yeux. À des années-lumière, en manteau vert, je ne vois pas. Assis sur les bords de Loire, où je relis notre histoire. Dans ce vieil abstrait cruel, la façon dont je me démène n'a plus rien de Dieu. Over and over, le ciel est insaisissable, c'est l'infini d'un visage. Notre pauvre âme insensée a sa peur d'être écrasée, n'a plus rien de Dieu. Tout ainsi t'a jassé, pour presque rien, nous jette un manteau sur les yeux. À des années-lumière, en manteau vert, je ne vois pas ton amour. Siège du cocher, près de la terre planée, hurlant au manteau d'amour comme le chien dangereux, n'a plus rien de Dieu. Over and over, à l'impatience éternelle, me voilà l'homme. La douleur qui m'ensorcelle,
t'as si t'as chassé pour presque rien. Nous jette un manteau sur les yeux à des années-lumière. On monte au vol, je ne vois pas ton amour.
Il l'invita à prendre le thé chez lui. Elle trouva son thé délicieux, un thé qu'il avait rapporté de Ceylan où se cultive le meilleur thé du monde. Elle lui rendit son invitation. C'était l'épreuve finale. Elle était plus jolie que jamais et préparait le thé comme on doit le préparer.
Dans la théière ébouillantée, une cuillère par personne. Une, deux et une pour la théière. De l'eau bouillante sur le thé, laissez infuser quelques minutes.
Il trouva son thé délicieux. Il lui demanda une seconde tasse de thé et par la même occasion, sa main.
Joli. Connaissez-vous Elvira Masson, cette pépite que nous a dégotée notre réalisatrice Michèle Biou ?
Non, mais c'était joli comme tout.
Une publicité pour une marque que vous allez évoquer dans un instant. Mais juste avant, quelques questions qui fâchent de nos auditeurs qui nous envoient des mails pendant le direct de l'émission. On va l'adresser à Lydia Gauthier. Quel est votre avis, chers experts, chercheurs, sommelières ? T-Tester, quel est votre avis sur la machine à thé du groupe Nespresso, Nestlé ?
Alors, l'origine de la machine était intéressante parce qu'ils ont voulu mettre de la feuille entière dans des capsules.
Oui.
Après, le réglage de la machine, je trouve que ce n'est pas du tout performant. Donc, on revient en fait sur des thés qui vont bien ressortir, des thés classiques qui sont parfumés, des thés aromatisés. Mais après, tout ce qui était un petit peu original et terroir, comme des thés blancs, des houlongs ou certains thés verts japonais qui sont dans leur gamme, ne ressortent pas bien du tout parce que le temps d'infusion ne va pas, la température de l'eau ne va pas.
C'est un problème quand même au prix où ça coûte en plus.
Je trouve que c'est mieux d'utiliser un bon thé en sachet parce qu'on a maintenant quand même des belles qualités de thé en sachet qui permettent d'enfermer de la feuille entière. Et donc, autant utiliser du bon thé en sachet dans un mug classique.
Donc, on oublie la machine Nespresso.
C'est le bonheur de préparer un thé. Qu'est-ce que vous voulez lui confier ça à une machine ? Non, mais alors.
On est d'accord. Il y a Martine, Sylvie, qui vous titille, François-Xavier Delmas. Vous êtes fondateur du Palais d'été.
Bonjour, Martine.
Une des boutiques les plus connues sur la place. Vous invitez, oublie de mentionner le prix du thé. J'ai acheté du thé au Palais d'été à 80 euros le kilo. C'était l'un des moins chers. Alors, vos prix ? Est-ce que boire du bon thé, ça veut forcément dire dépenser beaucoup ?
Alors déjà, il faut regarder ce que ça donne quand vous rendez ça à une tasse de thé. Il faut 2 grammes de thé. J'invite Martine à faire le calcul. Il faut 2 grammes de thé pour une tasse de thé. Et vous vous rendrez compte que c'est beaucoup moins cher que beaucoup de boissons, y compris des sodas dans
D'accord.
le commerce. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il était beaucoup, beaucoup plus cher que celui-là. Celui qu'elle cite n'est pas particulièrement cher. 8 euros les 100 grammes pour un paquet de thé, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a des thés en hypermarché, industriel. Si vous regardez le prix au kilo, vous êtes nettement au-dessus de ça.
Transition.
Le thé que je vais vous faire goûter là dans 5 minutes, le Joucro de Corée du Sud.
Ouais.
C'est un thé absolument incroyable. Pendant des années, moi, je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit qu'on n'était pas capable de le vendre. Et c'est un thé que nous vendons aux environs de 120 ou 130 euros les 100 grammes. Mais c'est une expérience extraordinaire.
J'ai trompé les lèvres dedans, c'est absolument prodigieux. On a l'impression d'être
si vous voulez,
dans
c'est
un
comme
goûter
le,
d'enfance
là aussi, on
avec
est comme,
des goûts de brioche.
Oui, il est d'une richesse étonnante parce que vous avez des parfums de fruits cuits. Enfin, je ne vais pas tous vous les réciter, mais il y en a énormément. Là aussi, le thé, c'est comme le vin. Et le tout, c'est de trouver ce qui convient. Et alors, je regrette de dire à Martine aussi, mais ça, c'est pour tout le monde, que le thé risque d'augmenter dans les temps à venir. On peut refaire une autre émission là-dessus, en Chine et en Inde notamment, parce que des populations s'enrichissent et c'est très bien pour ça. Et s'il y a une classe moyenne chinoise qui représente 300 millions de personnes qui se met à découvrir des bons thés chinois, et bien forcément, ils ne sont plus demandeurs de les exporter et ça va devenir beaucoup plus difficile.
Donc François-Xavier Delmas pratique le prix juste au Palais d'été.
J'essaye.
Et la Chine devient d'ailleurs importateur de thé.
Absolument.
Depuis quelques années.
Et de vin, les grands crus de Bordeaux aussi.
De quel pays ?
D'Inde, du continent africain.
D'accord.
Du Sri Lanka.
Parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de consommer, ils ont envie de goûter non seulement leur propre thé qu'ils exportaient jusqu'à présent, ils auront aussi envie de goûter les thés d'ailleurs. Demain, vous allez à Rangzhou dans une boutique de thé, vous rendrez compte qu'ils vendent des longjing absolument incroyables que moi je ne suis pas capable d'acheter parce qu'on n'a sans doute pas des amateurs en France pour ça, mais qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo.
Évoquons la grande majorité des thés que l'on consomme en France et que l'on achète, Elvira, dans ce qu'on appelle techniquement les GMS.
À savoir les grandes surfaces.
Les grandes et moyennes surfaces. Absolument.
Alors, je vous ai concocté un petit breuvage qui est le breuvage le plus consommé en France.
On va demander à Lydia, Lydia Gauthier ce qu'elle en pense.
Le plus connu sans doute.
Oui, alors effectivement,
je pense que vous devinez immédiatement,
un mélange d'origine, sans doute Sri Lanka, Inde et Afrique, continent africain, ouais. Kenya.
A priori, 24 origines différentes
mélangées.
Je
ne vais pas citer de marque, mais...
Si, on la cite,
oui,
bien sûr.
Donc, on est dans l'univers du Lipton Yellow.
Du Lipton Yellow, l'un des les plus connus en France.
Qui est comme le Nescafé, le produit qu'on va trouver. Moi, j'ai vécu au Mali pendant 5 ans, qu'on trouve partout dans le monde, et au fin fond de la brousse.
Sans tabou, sentez-vous libre, que faut-il penser du Lipton Yellow? Votre avis d'expert?
Personnellement,
oui,
je préfère le thé.
Ça veut
tout
dire.
Mais c'est vrai, c'est autre chose.
C'est
pas forcément mauvais pour autant, c'est autre chose.
Non, c'est un basique, mais c'est assez plat. C'est assez astringent et amer. Et donc, on ne s'amuse pas et on ne se fait pas plaisir. C'est pas un produit qui est gourmand.
Et ce qui est très intéressant, je trouve, avec les thés en sachet, non pas leur goût, mais la manière, à cause de ce qu'on met à l'intérieur du sachet en papier, vous avez préparé ce thé-là, regardez, il a une jolie couleur.
Ouais. Ça, c'est un peu incroyable. Caramel. Ouais.
Parce que comme il a une jolie couleur, vous supposez
qu'il est bon,
qu'il a du goût.
Ouais.
C'est une présupposition.
Ça, c'est tout le
génie. Ça, c'est incroyable. Ça,
c'est tout le génie du marketing.
Ouais. Ouais.
Alors, Elvira.
Le
génie
du marketing, justement. Donc Lipton, avec son bon vieux Lipton Yellow, est toujours leader sur le marché, mais il est concurrencé par de nombreuses autres marques qui jouent pas mal la carte du marketing. Il y a une offre pléthorique. Quand vous allez en grande surface, alors il y a le rayon infusion qui est encore plus large que le rayon d'été désormais, mais le rayon d'été est assez imposant. Comment y voir clair? Donc je me suis cantonnée vraiment au thé en sachet. Alors d'abord, on a longtemps dit que les sachets contenaient des poussières de thé, qu'en gros c'était un peu les fonds de cuve, que c'était du thé pas forcément de piètre qualité, mais en tout cas, un piètre morceau de feuille, une espèce de poussière.
C'est le nom que ça porte, ça s'appelle des dust. Quand vous visitez des usines de thé, ça s'appelle dust, fannings et dust.
C'est de la poussière de thé en anglais.
Elle fait briser volontairement d'ailleurs. C'est pas forcément de la poussière qui est arrivée par accident, c'est les deux.
D'accord.
Soit la poussière arrivée par accident au moment du process du thé, soit, je me dépêche de parler parce que je sens bien, il y a beaucoup de choses à dire, et soit des feuilles qu'on aura brisées volontairement parce que le marché demande.
Ce sont des morceaux de feuilles, mais désormais, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'on trouve néanmoins en grande surface des thés dont la qualité a sensiblement progressé.
L'offre s'est considérablement
augmentée. Et puis, c'est diversifié aussi, parce qu'on trouve du thé blanc en sachet.
Oui.
Alors, beaucoup quand même dans l'univers des thés aromatisés. Hein, on reste encore pas trop l'univers des thés nature. Mais c'est vrai que l'offre s'est diversifiée. La qualité des sachets s'est diversifiée aussi.
Ah oui, les industriels ont parfaitement compris que l'offre était... que la demande avait beaucoup augmenté et donc ils suivent dans les hypermarchés ce qui se passe dans les magasins de thé.
C'est difficile de s'y retrouver, justement, en termes de sachets.
Pour en revenir au prix, c'est tout à fait intéressant de regarder le prix ramené au kilo, parce que justement sur une offre de thé de moyenne gamme en sachet pyramide, par exemple,
en
on va être à 15 euros les 100 grammes, très facilement. Alors autant
le thé au supermarché est un produit assez coûteux.
Sur une offre infinie qu'on a dans le vrac, qu'on n'aura jamais dans le sachet.
Donc rapport qualité-prix qui peut parfois laisser à désirer en supermarché.
Alors la forme du sachet, on a le classique sachet rectangulaire à double chambre, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle.
C'est
le sachet Lipton, le sachet qui a été inventé par Lipton. Puis est arrivé le sachet mousseline, plus élégant, plus raffiné, qui n'a pas d'intérêt gustatif particulier.
Mm-hmm.
Et le sachet pyramide, également la texture d'une mousseline, mais qui l'a...
Invention Lipton, hein ?
Invention Lipton, absolument, qui là autorise plus d'espace dans le sachet, donc plus une meilleure qualité d'infusion. Parce que, en revanche, mettons plus de thé
donc
à l'intérieur.
Le sachet pyramidal.
Le sachet pyramide, c'est vrai que... Enfin, le sachet pyramide et ce qu'on appelle... Enfin, les sachets mousseline coton, les sachets voile, pyramide ou même rectangulaire permettent de conditionner de la feuille entière, ce qu'on n'a pas avec le sachet papier.
D'accord. Est-ce que les industriels mettent plus de quantité de thé dans leur sachet pyramide?
C'est pas la quantité qui compte.
C'est
pas la quantité qui... Comme beaucoup de choses, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et ce qu'il faut, si vous voulez savoir, vous prenez une paire de ciseaux et vous ouvrez votre sachet. Avant de le faire infuser, vous regardez ce qu'il y a dedans. plus vous allez sur la brisure et moins la qualité est bonne, plus vous allez sur de la feuille entière et meilleure est la qualité. C'est uniquement
d'accord.
ça qui compte.
D'accord.
On voit également au supermarché de plus en plus de thés aromatisés. Alors lesquels thés sont en général estampillés de mots, de qualificatifs qui étaient longtemps réservés au café d'ailleurs. Subtil et rafraîchissant, rond et suave, il y a tout un nouveau champ lexical très bien marketé. Sans doute nous diraient les chefs de produits parce que le marché du thé est très féminin. Je pense que c'est pas mal lié à ça.
Alors
ces thés parfumés marchent très bien. La menthe en tête, le citron, les fruits rouges sont les parfums préférés des Français. Mais rappelons aussi que le bon vieil Earl Grey est aussi un thé parfumé.
Oui, mais alors là se pose la question, des arômes sont-ils naturels ou de synthèse? Pour aromatiser ces
thés. C'est justement le problème. Il faut quand même absolument apprendre à lire les étiquettes parce qu'il y a diverses manières d'aromatiser. Le procédé le plus naturel, ce serait l'aromatisation par les huiles essentielles. C'est parfois le cas, c'est assez souvent le cas, surtout pour les thés bio. Alors ensuite, arôme naturel ou arôme de synthèse. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des arômes parce que ce serait l'objet d'une émission à part entière. Disons juste qu'il ne faut pas être naïf. Le terme naturel dans arôme naturel signifie uniquement qu'il s'agit d'une substance biologique, pas forcément extraite de la matière première stipulée.
Oui, une peut faire par exemple un arôme de framboise avec des écorces de cannelle. C'est ça que ça veut dire en fait.
Absolument. Une chose est certaine, c'est que les arômes de synthèse sont eux fabriqués exclusivement de manière chimique. En bref, si vous lisez sur une étiquette la mention arôme bergamote, arôme fraise ou arôme macaron, parce que oui, ça existe. Voilà. Et pour les citer chez Mariage Frères, grande maison de thé concurrente de la vôtre, on fait des thés arôme macaron.
Mariage Frères, qui a quand même une très bonne réputation. Est-ce
arôme
que là,
calisson,
on
ne cède
quand même
financier.
Pas un marketing absolument douteux, non? Arôme macaron, arôme crème brûlée pour des thés,
Je ne vais pas critiquer mes confrères, mais le thé parfumé, de toute façon, c'est un domaine assez vaste. Alors souvent, il y a des gens qui vont taper dessus. Pour moi, dans les thés parfumés, il y a du respectable et du pas respectable. Mais c'est aussi une question d'harmonie et de goût. Vous avez un thé, par exemple, qui est le thé au jasmin, qui se fait en Chine. Alors là, il n'y a même pas d'huile essentielle d'ailleurs. C'est uniquement, on va mettre les pétales et les fleurs de jasmin en contact avec les feuilles de thé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très qui va très bien avec le thé, très respectable.
Mais au palais des thés Rimbaud, en l'occurrence, est-ce que quand il s'agit de thé aromatisé, on est à peu près sûr de trouver des thés aromatisés avec des arômes naturels?
Quand ils sont disponibles, on le fait.
Ça n'est pas systématiquement.
Non, il y a certains arômes pour lesquels vous ne trouvez pas d'arômes naturels. Mais par exemple,
mais pourquoi vous abstenez pas de les faire à ce moment-là?
Parce qu'il y a une certaine demande ou parce qu'il y a des gens qui ont envie qu'il y ait une petite note de caramel dans un thé aux épices ou quelque chose comme ça.
C'est 70% de la consommation en Occident, les thés aromatisés. Je pense que c'est quand même pas négligeable parce que c'est une porte d'entrée dans l'univers du thé. Et souvent, on voit des clients qui commencent par des thés aromatisés parce que c'est vrai que du coup, dans la boîte, c'est globalement très fidèle par rapport à ce qu'on va avoir en tasse.
Mais donc, c'est comme le kir. Quelqu'un qui a jamais bu de vin de sa vie, peut-être que la première fois, vous lui faites goûter du kir et ça va davantage lui plaire. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est de l'initiation.
C'est souvent fait avec une crème de cassis, par exemple, qui est faite quand même avec du vrai cassis.
Oui.
Moi, c'est
pareil,
c'est le problème plutôt de la provenance de l'arôme.
Il y a plein de qualités différentes. Et ce qui compte, c'est le comportement du consommateur qui, lui, ne va pas boire du kir toute sa vie et qui va peu à peu aller vers quelque chose.
Ouais.
Et voilà, et les thés parfumés. Moi, je ne vendrais pas de thé parfumé si les gens restaient au thé parfumé toute leur vie.
Donc,
je
le thé parfumé peut être une première étape.
Exactement.
Ouais. Aide à aller vers le cœur de l'univers du thé. Qui est le thé nature.
Elvira, une dernière chose.
Une dernière chose, et là on sort du côté qualitatif du thé, mais on est plutôt sur l'aspect social ou moral ou éthique des choses. Il y a des maisons, par exemple Alter Eco, qui travaille en bio, une maison que vous connaissez bien, Lydia, parce que vous avez travaillé avec eux notamment, qui justement propose des thés qui sont enclins à favoriser la biodiversité. C'est-à-dire qu'ils ont tout un programme qui favorise la biodiversité, qui ne travaille qu'avec des producteurs qui sont propriétaires de leurs parcelles, parce qu'il y a aussi, ce serait une autre émission, des vrais enjeux socio-économiques et
moraux et éthiques. C'est passionnant comme...
On a parlé aussi de traces de pesticides dans certains thés. Est-ce qu'il faut privilégier des thés bio justement pour être à l'abri de ces substances nocives
Agriculture raisonnée aussi.
Ça dépend un peu des régions du monde. Quand vous prenez par exemple la région de Darjeeling, il y a 80 plantations en Inde. Il y a 80 plantations, elles sont toutes à peu près organiques. Disons qu'aujourd'hui, les normes européennes, elles sont quand même drastiques. Je peux vous dire qu'au Palais d'été, tous les containers à l'heure actuelle qui arrivent au Havre, tous, ils sont bloqués en douane. Le temps d'aller faire les analyses, alors que nous-mêmes, on a déjà fait nos analyses et on croise. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement en Europe la volonté que le consommateur boive quelque chose de sain. Et c'est pareil, on peut aussi parler de Fukushima, où on fait des analyses.
Certains de nos auditeurs nous posent des questions sur Fukushima. Est-ce que les thés verts du Japon, il faut s'en méfier en ce moment après la catastrophe nucléaire qui est survenue là-bas?
Ça pouvait être le cas la première année dans des zones qui étaient proches. Oui. Nous, on continue à acheter, bien évidemment, parce que ça serait quand même pas très sympa pour les producteurs de japonais, sous prétexte qu'il y a eu Fukushima, d'arrêter de leur acheter leurs récoltes qui sont incroyables.
Oui, enfin on peut aussi avoir des doutes sur.
On fait des analyses. Mais il n'y a pas un seul thé vendu au Palais d'été pour lequel il n'y a pas une analyse. D'accord. Elle est disponible en boutique. D'accord. On peut vous montrer le niveau de césium. Et il n'y a pas une seule fois cette année où il y a eu le moindre problème.
Pas de thé vert fluo, donc, dans les gammes de couleurs, ça.
Non. J'ai découvert en préparant cette émission avec Lydia Gauthier que l'on peut aussi infuser des thés à froid.
Oui.
Et la transition est toute faite avec la chronique de notre chroniqueur Dominique Hutin. Et oui, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes livré à cette expérience et on va goûter.
Donc, dosage classique, une infusion beaucoup plus longue à température ambiante, en fait, pendant une heure.
Vous avez fait ça à quel thé ?
Alors, j'ai fait ça avec un thé blanc du Népal.
Oui.
Je l'ai laissé infuser à peu près une heure.
Donc, dans de l'eau à température ambiante ?
Oui. Et j'ai mis 15 grammes pour un litre 5.
On peut faire ça à la maison ?
Oui.
Mais avec n'importe quel thé ?
Avec n'importe quel thé. Alors après, il y a des thés qui passent plus ou moins bien à froid. Mais c'est vrai que notamment avec les thés verts japonais, avec les thés blancs, avec certains même thés noirs parfumés ou thés verts parfumés, les thés verts au jasmin aussi, c'est très agréable l'été de les
infuser. Des thés grillés japonais aussi, vous avez des résultats incroyables. C'est rafraîchissant.
Il suffit simplement de les mettre dans de l'eau froide, avec les mêmes proportions en fait que s'il s'agissait d'un thé chaud.
Et incroyable. Laisser infuser beaucoup plus longtemps.
Donc une heure
et après,
à peu
vous
près.
Le réservez au frais et vous le consommez dans les 48 heures.
Il n'y a pas besoin de machine pour ça. Il faut verser de l'eau froide sur les feuilles de thé.
Sans sucre, sans rien, sans additifs.
Et vous ajoutez, Lydia Gauthier, encore une petite dose d'originalité à cette démarche, puisque vous osez boire ce thé du Népal infusé à froid avec du
avec un produit franco-français de la fourme d'Ambert de chez Marie Quatrome.
Non mais alors c'est une blague, comment vous avez mis au point cet accord ?
Ça fait longtemps que je travaille sur les accords thé et mets. Alors pour le coup, l'accord thé et fromage est tout à fait naturel. C'est vraiment un produit, je trouve des fois même qui est peut-être plus facile à accorder que certains vins, notamment certains vins rouges sur le fromage. C'est une harmonie, une alliance qui fonctionne très bien.
Alors moi, je veux absolument faire l'expérience à prochain verre. Boire du thé froid avec un plateau de fromage très français, avouez que c'est quand même original.
Je sais que tu entends, j'aime énormément le Hoso Irati.
Oui.
Et du butterfly, un oolong de Taïwan.
Ah oui, un beau oolong.
Un oolong de Taïwan
avec un Hoso Irati, mais c'est merveilleux.
Vous parlez du fromage de brebis basque.
Oui, et le tout, en fait, c'est qu'il y a un bon équilibre et qu'il n'y en ait pas un qui capte toute l'attention par rapport à l'autre. C'est ça qui est difficile à trouver.
Que si les mots soient dit en passant, votre forme d'Ambert, elle est forcément au lait cru, elle est fameuse.
Oui.
Très crémeuse.
Alors, il y a quand même. Vous avez. Pardon, oui.
Oui, j'ai juste rajouté une petite touche sucrée, mais vous n'êtes pas obligé. Ça dépend des goûts. Je trouve que c'est sympa d'avoir ce trio. Donc, c'est une pâte de fruits framboise et thym qui allait bien, je trouve, avec le persillé et le crémeux de la fourme d'Ambert et avec le côté un petit peu astringent, végétal et fleuri du thé blanc.
Moi, je vais goûter ce thé blanc.
Alors, vous avez un bol juste devant vous.
Voilà. Et voici la confiture.
Alors, vous pouvez aussi le servir au verre. Puis autant pousser le vice jusqu'au bout et servir, faire un service.
C'est un verre à vin. Alors, vous avez fait plusieurs fois le parallèle. C'était très sympa entre le vin et le thé. Il y a quand même quelques différences qu'on doit énumérer très rapidement. Et puis après, on va se livrer une bataille endiablée autour des fromages. La première chose, c'est que l'eau du thé, elle était exogène. C'est-à-dire qu'elle est ajoutée au thé. Ne perdons pas de vue que l'eau du vin, 95% du vin est de l'eau. Donc voilà les choses telles qu'elles sont. Elle fait partie de sa composition puisqu'elle est issue naturellement des baies du raisin. Donc le vin raconte tout de suite le terroir. Pour peu qu'il soit pas industriel, en tout cas, le terroir, l'endroit où il est né. Je réagis sur l'histoire du vin rouge, parce qu'effectivement, on ne le sait pas, mais tenter le blanc, parce que les polyphénols, c'est-à-dire qui sont des tanins, des molécules, n'aiment pas beaucoup les protéines du lait. Or, ces tanins, on les trouve dans les vins rouges, ce qui fait que, moralité, le gras du fromage va durcir les tanins du vin rouge. Donc, priorité est faite au vin blanc. D'abord, exercice pratique sur la fourme d'Ambert. Voilà ce qui va se passer. Moi, je vous propose un Pinot des Charentes blanc, par exemple. Ça, c'est un accord qui détonne un petit peu avec une autre piste, avec le pachereng du Wigbill. Il est là, voilà. Je cherchais ma bouteille.
Donc là, c'est sucré.
Oui, mais pas tellement. En l'occurrence, une petite coquetterie, deux frères, Guy Capmartin, vous trouverez leurs coordonnées sur notre site, et Denis Capmartin, deux domaines différents, deux pâcherins un peu différents, les deux autour de 7 euros. Donc ça nous permet quand même de faire des cabrioles pour pas très cher. La cervelle de Canu, voilà une autre piste pour les Lyonnais, s'il y en a sur la table par exemple. Oui. Une bière, une gueuse de spontané, une gueuse, bière belge de fermentation spontanée. Ça, il y a un bel accord à faire. Vous pouvez aussi tenter avec un poiré de Domfront, légèrement tendre et légèrement acidulé. Le parmesan. Parlons-en du parmesan. Un McVin du Jura, par exemple. Et si vous voulez tenter le Morbier, dernière chose, par exemple, un régional, le Chardonnay du Jura.
Désolé Dominique, on a amputé votre chronique. Malheureusement, on est obligé de rendre l'automne, mais promis, on reviendra sur le sujet avec vous, les accords, boissons et fromage. Merci beaucoup, bon appétit, bon dimanche.
Merci.
Et à la semaine prochaine, on sera au Salon de l'Agriculture.